Juste avant de lancer un nouvel épisode, je suis très heureux de donner la parole à quelqu'un qui travaille au quotidien avec la personne que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux parler de Thibaut Périlla, le fondateur de Lactic. Salut Thibaut.
Salut Armano, ravi de t'avoir aujourd'hui.
Je voulais te donner la parole pour pouvoir parler avec nous de Lactic. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que Lactic ?
Alors Lactic, c'est une entreprise qui forme les athlètes de haut niveau et les indépendants du sport, donc les nutritionnistes, les entrepreneurs dans le sport, les coachs physiques, les sophrologues, à créer du contenu donc sur LinkedIn pour générer des opportunités et gagner en notoriété.
En quoi est-ce que toi et tes associés, vous êtes légitimes pour former les sportifs de niveau et les indépendants du sport ?
Très simplement, moi en 2021, donc mon frère jumeau Duncan, qui est champion de France de marathon, galérait à vivre de son sport. Et comme moi, je suis freelance en marketing depuis maintenant plus de 5 ans, j'ai décidé de l'aider en fait à trouver des sponsors. Et j'ai notamment raconté son histoire en ligne ou sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques mois, ça a très bien marché. J'ai réussi à lui trouver plusieurs sponsors et aujourd'hui, il vit très bien de son sport.
Donc, tu nous parles de la formation. Tu peux nous parler rapidement de toutes les offres que vous avez chez Lactic ?
On propose des formations e-learning pour accompagner les athlètes qui veulent se former tout seuls. On est en train de lancer des bootcamps pour les accompagner individuellement sur 8 semaines. Et en plus de ça, on les aide pour les athlètes à monétiser leur communauté en les formant aussi à créer leurs propres médias comme leur newsletter et la monétiser.
Et vous vous adressez aussi aux indépendants du sport donc ?
En fait, on a différencié, on a créé deux types de formations qui sont spécifiques. Une pour les indépendants du sport, l'objectif de trouver des clients et de générer des opportunités et de gagner en notoriété. Et pour les athlètes de niveau, la spécificité, c'est de trouver des sponsors et de développer une communauté.
Où est-ce qu'on peut retrouver Lactic si on veut en savoir plus sur vos offres ?
Tout simplement sur le site web, donc sur lactic.fr. Sinon, vous pouvez aussi nous trouver directement sur LinkedIn, sur mon profil Thibaut Périlla, sur la page Lactic ou encore sur le profil de mon associé Pauline Lacroix.
Super. Eh bien, écoute, Thibaut, merci pour ces précisions. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez pouvoir juger de la pertinence de la prise de parole de l'athlète qui est chez Lactic que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur ses réseaux sociaux pour pouvoir le suivre, l'encourager et puis voir justement le résultat du travail effectué avec Thibaut. Allez, c'est parti. Je vous laisse pour l'épisode du jour. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, je suis à nouveau en physique, en face à face avec mon invité et j'ai un peu peur, on en parlait un petit peu off, mais il a l'air gentil. Et regardez-moi ça, il a un beau sourire. On a la chance d'être accueillis dans la salle du Striking 15 à Paris 15e, une salle de boxe, kickboxing, MMA. On va parler de tout ça avec mon invité qui est Ange Kunzli. Salut Ange.
Salut Hermano, ça va ?
Bah très bien, et toi ?
très bien.
Tu vois, j'ai essayé de faire une petite blague en disant que je voulais pas trop me frotter à toi,
non,
mais
non,
physiquement t'as l'air gentil quoi.
Ah, je le suis, c'est pas que l'extérieur, ne t'inquiète pas. Non, il n'y a aucun souci là-dessus, t'inquiète pas.
Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. L'objectif de ce podcast, c'est d'en savoir plus sur la vie des sportives et des sportifs de haut niveau, savoir comment vous financez vos carrières, comment vous vivez votre quotidien. Et la première question que je pose à mes invités, elle est toute simple. Qui es-tu ? Qui est Ange Kunzli ?
Ok, très bien. Alors, je m'appelle Ange Kunzli, je fais 1m72. Non, je rigole. Non.
Ah, vas-y, tu peux entendre les mensurations, ça peut intéresser certaines.
Comme Mike Tyson, les mêmes à peu près au niveau de la nuque. Non, je suis boxeur professionnel depuis maintenant 4 ans. Ça s'est passé avant Covid. Effectivement, je travaille à côté, je suis coach sportif plutôt en boxe. Et effectivement, c'est un travail, on va pas dire alimentaire parce que c'est un métier de passion, mais je suis obligé, effectivement, j'aimerais bien ne faire que de combattre. Mais c'est trop difficile en France.
C'est trop difficile et pas assez rémunérateur ?
Tout à fait. On est très mal de toute façon en France, il n'y a que le foot qui compte. Donc on est tous très mal visibles. Enfin, à la télé, il n'y a aucun autre sport qui prévaut, mis à part celui du foot, quoi.
Ouais, un petit peu de tennis, un petit peu de golf, un peu de
rugby. Oui, mais ça reste très élitiste et de toute façon, c'est pas en France. En France, il n'y a que le foot qui compte.
Tu disais que tu es boxeur. Quel type de boxe ?
Alors, j'ai commencé par la boxe française, la savate, avec uniquement les pieds et les poings. Donc, on combat en chaussures et avec une tenue, une espèce de salopette qui fait plus de mal à la discipline que le reste. Après, j'ai commencé à faire du kickboxing. Là, récemment, j'ai décroché une ceinture, un titre en ISK Europe, en kickboxing. Et j'ai aussi fait du K1, donc cette fois-ci, ce sera avec les coups de genoux autorisés. Et j'ai combattu aussi en Muay Thai, donc avec les coups de coude et les coups de genoux autorisés.
Wow, MMA, non ?
MMA, bah ça y est, là, je vais faire ma transition. Je vais travailler un petit peu le sol pour être complet. Et oui, effectivement, je vais aller dans le MMA parce que pour faire le parallèle entre l'argent, etc., le MMA est passé légal en France depuis quelques mois, donc tout le monde en parle, c'est les munitions de partout, donc oui, effectivement, je vais me lancer dans l'MMA, mais je pense que Jimmy Vienne aussi voulait se mettre dedans, il me semble.
Bah, effectivement, je t'avais dit en off que j'avais eu la chance d'avoir aussi Jimmy Vienne, dont j'ai publié l'épisode il y a quelques semaines, qui a aussi performé à très haut niveau en kickboxing et en Muay Thai, et qui se lance maintenant dans le MMA. Et son approche était la même, de dire bah, c'est un autre sport, certes, mais c'est aussi beaucoup plus rémunérateur que la boxe ou le kickboxing.
C'est ça, bah, c'est la mode, tout le monde en parle. Même si les gens ne regardent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent regarder, bah, ils en regardent quand même. Bah non, mais je dis ça parce que j'étais allé voir un ami qui combattait, Racim, qui combattait à l'ARES, c'est un combat de MMA, et dans le public, dès que ça allait au sol, dès qu'il y avait des emmenées au sol, donc les frappes sont autorisées au sol, tout le public, de façon unanime, criait « relevez-vous, relevez-vous et pétez-vous la gueule debout ». Ce qui sous-entend bien que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir du kickboxing, mais en mitaine, parce que c'est très impressionnant. Ils veulent pas voir deux mecs se chiffonner par terre. Mais c'est ça le MMA. C'est 50% au sol, 50% debout. Et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils m'énervent. Voilà.
Bon, on va. Calme-toi. Je ne voudrais pas t'énerver.
Non,
s'il te plaît.
Pas.
Je tiens à mon intégrité.
Parfait.
Bon, revenons un petit peu sur toi. Je t'ai demandé qui tu étais. Donc, tu nous as dit tes mensurations, pour déconner, Mike Tyson. Et puis après, tu nous as dit un petit peu ce que tu pratiques comme sport. Quand est-ce que tu as commencé le sport ? C'est quoi pour toi le sport, d'aussi loin que tu te souviennes ?
Bon, pour moi, le sport, c'est avant tout une énergie. J'ai commencé avec beaucoup d'énergie, à faire tout et n'importe quoi. Donc j'ai commencé à faire du roller, j'ai commencé à faire du skate, du BMX, tout ce qui me donnait un peu de frisson, qui me donnait de la vitesse et du risque, hein, toujours, hein, là-dessus on est bon. Et après ça s'est doucement dirigé vers la boxe parce que c'était le sport qui pour moi était le plus intensif. C'est ce qui me calmait le plus et me canalisait le plus, que ce soit dans la manière de boxer, c'est-à-dire dans l'énergie que je mettais dans les coups et dans les coups que je me recevais et qui me faisaient frissonner aussi.
Waouh.
Non, pas toi.
Ouais, moi je fais pas de boxe, mais du coup j'ai un frisson qui me traverse. et c'était ton choix, la boxe
Tout à fait.
Ou c'est tes parents qui se sont dit on va lui trouver un sport pour qu'il se défoule
Non, du tout. Ça s'est imposé à moi tout naturellement. Comme je te dis, j'avais beaucoup d'énergie. Je fais partie de ces gens qui ont toujours eu de l'énergie et qui ont besoin d'extérioriser, sinon on se bouffe. Et je me suis dirigé vers ça assez naturellement, mais sans me prendre la tête. Tous mes potes, pendant la crise d'ado, tout le monde voulait être boxeur, tout le monde voulait montrer qu'ils en avaient dans le caleçon. Donc du coup, bah, je me suis mis tranquillement à la boxe et j'y ai pris goût en fait. Je me suis accroché dedans et j'ai tout de suite compris que c'était pour moi et que c'était là où j'allais performer.
Et comment est-ce qu'on progresse à ce moment-là quand tu commences la boxe, quand tu commences notamment la savate, combien de temps ça prend, quels sont tes objectifs, est-ce que tu nourris déjà des objectifs très tôt, est-ce que tu les affiches très tôt, est-ce que tu restes humble? Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est ma spécialité, mais c'est un petit peu pour t'aider, t'orienter.
Bien sûr, bien sûr. Alors pour ma part, au début, je me suis tout de suite dit ce que j'étais bon dedans. Pas dans le sens où j'étais le meilleur, mais dans le sens où moi, personnellement, j'appréciais ce que je faisais, je voulais en avoir plus, en savoir plus, en comprendre plus. Et assez tôt, en fait, après, c'est la salle de boxe, surtout que j'étais en banlieue, donc tout le monde veut se frotter, tout le monde veut se tabasser, se mettre KO, etc. Et on m'a, plusieurs fois, mais dans les premières années, enfin même les premiers cours, tout le monde voulait me tabasser, me mettre KO, du coup, j'ai commencé à tourner et très vite, j'ai vu que j'étais bon, que je pétais des nez, que ça fonctionnait, qu'il y avait des KO. Et du coup, je me suis mis dedans à fond, quoi. Ça m'a appelé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, du coup, j'ai voulu. En fait, c'est de mon fait. J'ai voulu être bon. Je me suis pas dit que j'allais être bon. Je me suis dit que je veux être bon. C'est ça.
Alors, pourquoi vouloir être bon? Pour être au-dessus du lot, au-dessus des autres,
pour péter la gueule des gens. Être sûr de moi et de... Non, bonne question. Peut-être un mix des deux, hein. Peut-être un mix des deux entre je lui pète la gueule et je suis bon. Non, mais en fait, comme je disais, j'aimais ce que je faisais de moi et j'aimais ce que je faisais ressentir aux autres, la douleur.
Et c'est pas qu'une question d'image, c'est aussi...
Non, du tout, je pense que c'est avant. Et c'est là, je pense qu'il y a des mauvais et des bons boxeurs, je pense que c'est là aussi où on sent qu'il y a des mauvais boxeurs quand ils sont axés que sur eux et pas sur son partenaire. Ou adversaire.
Bon, et c'est comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs.
Exactement, tout à fait. Le bon chasseur, il se reconnaît parce qu'il est... Voilà.
Combien de temps ça va, du coup, avant de switcher vers autre chose?
J'en ai fait peut-être une bonne dizaine d'années. Et après, j'ai switché. En fait, j'ai commencé très vite à combattre en savate. J'ai fait quelques combats en kick, en K1, et grâce à la boxe française qui n'est pas reconnue comme un sport professionnel, on a le statut d'athlète de haut niveau. Donc on voulait absolument avoir ce statut pour pouvoir profiter de tous les avantages qui en découlent, quoi.
Alors, on va revenir sur ces avantages. Ouais, oui. J'imagine que quand tu as statut de sportif de niveau, c'est bingo, tu touches des millions.
Absolument pas, mais tout à fait. tout à fait.
Restons un peu sur ton parcours de boxeur, une dizaine d'années en savate. Quel est le déclic, le switch qui te fait passer à autre chose, à un autre sport, à une autre pratique, même si ça reste du sport de combat?
Alors, déjà, c'est uniquement pour le fait d'aller dans d'autres disciplines, c'est le plaisir, en fait, de découvrir d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et à côté de ça, c'est aussi le cercle qui est assez fermé de la boxe française. J'ai les adversaires, je dois les rencontrer minimum 3 fois, quoi, les mecs. Il y a un moment donné, j'en peux plus. Non, mais c'est vrai, on s'est rencontrés 3 fois, c'est bon. Faut aller voir d'autres horizons. Et du coup, donc, je suis allé très vite en kick, en K1 et en savate pro aussi.
Est-ce qu'il y avait une question aussi, un petit peu comme ce switch vers le MMA dont on parlait tout à l'heure, d'aller chercher une discipline un peu plus rémunératrice?
Tout à fait, si, bien sûr. La savate est très mal. Pendant un temps, il y avait eu l'âge d'or de la savate, c'était dans les années 90, où c'était vraiment le best, ça passait sur le canal, tout le monde s'était enseigné dans les lycées, tout le monde à un moment donné, en universitaire, a fait de la savate, ceci, cela, et ça passait au niveau national. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Ce qu'on voit, c'est l'ORI, c'est l'infusion, c'est le MMA, l'UFC. Donc oui, effectivement. Et à un moment donné, je savais, moi et mes entraîneurs, qu'à un moment donné, on allait devoir dévier, quoi. Si je voulais en vivre, et puisque j'étais bon et que ça marchait pour moi, effectivement, si je voulais ne faire que ça, il fallait que je transitionne.
Et comment on se lance dans cette transition? On change les entraînements, on s'inscrit ou on se fait inscrire sur des combats et puis du coup on a un peu la corde au cou et on y va.
Moi j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui étaient vraiment multidisciplines. Donc on m'apprenait de temps en temps, on faisait quelques séances sur les genoux, sur les coudes, sur le sol, etc. Mais c'est de moi-même où je suis allé dans d'autres salles de jiu-jitsu, de grappling, où je faisais uniquement du sol et après je revenais sur le pied-point et ainsi de suite.
Comment est-ce qu'on se dit, à ce moment-là, je vais aller sur une autre discipline, sur une variante de la discipline, pour essayer d'en vivre? Quelle a été ta stratégie, justement, pour commencer à en vivre? Tu nous disais tout à l'heure que à côté de la pratique de ton sport de haut niveau, tu es coach, pour pouvoir
manger, quelque part.
Manger,
et
voilà,
ne pas mourir, ouais.
Acheter des épinards et mettre du beurre dans les épinards. Et surtout un sportif de niveau, qu'est-ce que ça bouffe ?
Ouais, malheureusement. Ouais.
Mais quelle a été ta stratégie, justement, au moment où, j'imagine, t'arrêtes tes études et tu te dis, allez, maintenant, je me mets dans le sport et il faut que j'en vive, donc comment je fais ?
Il n'y a pas de stratégie, en fait. Non, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est assez nébuleux, c'est assez compliqué, surtout en boxe. Parce que on n'est pas du tout sur le format américain où c'est super galvaudé. Il y a tout un tas de personnes derrière soi. C'est vraiment nébuleux. Il n'y a vraiment pas grand chose. On y va comme on est venu.
Je sais pas, je comprends pas. Moi, tu me parles de boxe, je vois Rocky,
j'entends, excuse-moi, c'est de ma faute. Personne ne nous paye pour nos entraînements. C'est-à-dire que c'est au combat qu'on est rémunéré. Et qui nous fait les combats ? Ce sont les organisateurs. Si pendant 5 mois, il n'y a aucun organisateur qui nous veut sur sa carte, sur son gala, bah pendant 5 mois, on ne boxe pas, quoi. Donc pendant 5 mois, il n'y a pas d'argent qui tombe.
Et alors, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître, reconnaître, repérer par les organisateurs ? Parce que comme tu le dis, pas de combat, pas d'argent, mais comment on fait pour aller sur un combat ? J'imagine que tu décroches pas ton téléphone et puis tu dis hey, salut, ouais, moi je suis boxeur, je peux venir.
Ouais. Bah normalement c'est au coach de faire ce travail-là, mais une fois de plus, est-ce que les coachs ont les contacts ? Est-ce que les organisateurs veulent de ce combattant-là ? Le vrai point qui va marquer les esprits là en 2024 aujourd'hui, c'est une fois de plus le fric et ça va être le nombre de personnes qu'on ramène sur les galas. C'est-à-dire que si là je suis le boxeur le plus nul au monde, mais je ramène 500 000 personnes sur un combat, et bah tout le monde va me vouloir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de petites stars de télé-réalité, de YouTube, de je sais pas quoi, qui sont sur des événements grandioses et qui ramènent tout un tas de personnes parce qu'ils font des entrées. Et si on a le meilleur des boxeurs qui met que des KO mais qui est pas connu, et bah on n'en voudra pas en fait, tout simplement.
Ouais, dans une certaine limite, j'imagine que comme tu disais tout à l'heure, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent voir, mais ce qu'ils veulent voir c'est de la baston. Donc finalement, amener le meilleur des boxeurs juste pour qu'il aille mettre KO la star de télé-réalité, ça peut être un pari gagnant.
Oui et non, parce que pour mettre KO le mec de la télé-réalité, oui, mais pour mettre KO un autre boxeur qui est très très bon, pourquoi il prendrait ce risque ? Et ouais, c'est là le problème, elle est là la problématique, c'est que même si le boxeur veut affronter le meilleur des meilleurs mais qu'il n'est pas connu, bah pourquoi je l'affronterais, ouais, en fait. Ouais. Et c'est là toute la problématique de la boxe et du fait que ce soit pas si bien géré que ça, quoi.
Alors si je ne m'abuse, il y a une fédération française de boxe, il y a aussi une fédération internationale, au milieu il y a la fédération européenne. Qu'est-ce qui fait que on choisit de s'orienter plutôt vers le kickboxing, vers le MMA, plutôt que vers le noble art et la boxe pour être encadré par la Fédé, peut-être aller au JO, peut-être faire des championnats du monde.
Bah, ça va être les attentes, c'est ça, ouais. Mais après, ça va être au-delà de la passion qui est que je préfère moi mettre des coups de pied dans la tronche des gens. Non, mais c'est pas que pour courir ou marcher.
Ouais.
Tu devrais essayer, Armando, c'est pas que pour courir.
Ouais, écoute, j'essaierai peut-être. Ouais.
Tu peux courir et hop, d'un coup, tu mets un petit shoot dans un quelqu'un, hop, après tu recours derrière, c'est plutôt sympathique. C'est aussi les attentes du boxeur, c'est-à-dire que comme tu as dit, s'il veut faire les JO, il n'y aura que le noble art, fin de l'histoire. Il y aura le taekwondo, mais bon, là ce ne sera même pas du pied-point, etc. Il y aura le karaté, mais une fois de plus, c'est autre chose. Donc assez compliqué, et c'est plutôt au boxeur de savoir ce qu'il veut dans le futur plutôt que l'inverse.
Et la fédération française, est-ce qu'elle intervient aussi pour faire grandir, évoluer des sportifs comme toi qui commencent par la savate, qui se cherchent un peu et après qui passent sur une autre discipline ?
Absolument pas.
D'accord.
Très bien. Tu as besoin de plus d'explications ?
Non, mais restons un peu là-dessus. Tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y a pas de statut de boxeur professionnel. Vous n'êtes pas payé pour combattre. Enfin, vous n'êtes pas payé pour vous entraîner. Vous êtes payé au combat. J'imagine qu'en plus, tu as une prime au vainqueur.
Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, c'est pas du tout. C'est ce que je te dis, c'est que on se fait beaucoup d'idées avec Internet, avec les États-Unis, avec tout ce qu'on entend à droite à gauche. C'est pas des millions. Les bonus sont rares et quand ils sont, il y en a pas toujours. Hein. La plupart de mes combats, il y avait pas de prime à la victoire, ni au KO, ni quoi aux caisses.
Bon, et comment on vit dans ces cas-là ? Parce que Ok, t'es coach, tu nous dis que c'est pas des millions. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, ton plus beau combat en termes de revenus, ça représente quoi? Alors, juste sur le montant, après je mettrai un disclaimer justement sur ce que tu peux faire de cet argent, mais sur le montant, un gros combat, ça représente quoi?
Alors, en pied-point, bah là ça va être simple. Alors, c'est mal vu de parler d'argent parce qu'en plus on sait pas où est-ce que ça va aller. Mais en pied-point, ça va jamais très haut. Le plus beau, ça va être 4000. Et avec les primes et tout, voilà, ça peut monter à 5 et grand max, quoi.
Donc maintenant, c'est moi qui fais mon disclaimer. 5, on enlève dessus les impôts, les taxes, les frais d'entraînement, la prime que tu donnes éventuellement au coach. Et au final, il te reste 200 balles pour manger.
C'est ça. C'est ça. Et on s'est entraîné 2 mois avant.
C'est ça.
Donc c'est pas oh non, ça va pour quand les, ça on me le fait beaucoup, ça. Oh, ça va pour 5 minutes dans le ring. Oh, ça va, c'est oui, sauf que s'il y avait que 5 minutes, mais il y a la bouffe, il y a les compléments alimentaires, il y a pendant 2 mois à s'entraîner, quoi.
Enfin, 2 mois de préparation spécifique pour ce combat.
C'est ça, donc
il y a
rien qui rentre.
15 20 ans avant où
tu as
galéré, tu as investi sur toi et sur ce potentiel combat.
Ouais, c'est ça.
Je réponds à ton objection où tu disais c'est pas facile d'en parler parce qu'on sait pas où ça va aller, d'où mon disclaimer. Soyons réalistes, c'est pas parce que tu m'annoncerais même 20 000 balles, je te dirais ok, bien, mais ton entraîneur, tu le payes combien? Ton abonnement à la salle, tu payes combien? Tes compléments alimentaires, tu les payes combien? Tes chaussures, ton matos, ta tenue, etc.
Exactement.
Est-ce que toi là-dessus, par exemple, t'es accompagné par des partenaires, donc plus que des sponsors financiers, mais par des partenaires en termes de matos? Comment est-ce que tu mets bout à bout tout ça tous les mois?
Alors, c'est que récemment que j'ai effectivement commencé à faire un maximum de pubs et demander de l'aide, parce que le temps passe, mais j'essaie de me faire aider un maximum. J'ai eu pendant un temps, j'ai eu du mécénat. Ce qui est bien, mais ce qui est assez compliqué à mettre en place. Les sponsors seraient l'idéal. Malheureusement, tout le monde est frileux. Le sport en France, tout le monde s'en fout. Personne n'en a rien à péter du sport. Et c'est très compliqué, ouais. C'est très très compliqué de mettre tout ça. J'ai essayé un maximum, hein. Decathlon m'aide un petit peu. On a un partenariat. Ils m'envoient, dès que je demande des nouveaux équipements, ils m'envoient leur dotation. Maintenant, ça reste compliqué et ponctuel.
Quel est ton avenir? Justement, alors au-delà d'aller faire du combat et de péter la tronche de tes adversaires, on aura bien compris que c'est ce que t'aimes bien.
Tout...
Non, mais d'un point de vue préparation de l'avenir, d'un point de vue financier, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pérenne, une situation pareille?
Alors, c'est assez compliqué. Je me projette pas trop parce que je sais pas de quoi demain est fait, d'autant plus dans un métier à risque comme le mien. Mais non, je sais pas.
On revient un petit peu sur le statut de sportif de haut niveau dont tu parlais tout à l'heure. Donc, vous n'êtes pas payé pour vous entraîner uniquement au combat, mais vous allez quand même chercher ce statut de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça t'apporte, notamment dans la savate ou dans le kickboxing, en France, d'être sportif de haut niveau?
Ce qui est le plus cool dans le statut d'athlète de haut niveau, c'est que si on a un partenaire, si on travaille avec si on a un travail, comment on dit? Avec le pays,
avec l'État,
RATP, voilà. Etc. On a des aménagements d'horaires de travail et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment. Mais bon, faut avoir déjà un pied dans le taf.
L'administration.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, et en dehors de ça, est-ce que ça te permet de toucher des aides, des primes, des subventions? Est-ce que ça te permet certains passe-droits? Est-ce que
il y a eu certains passe-droits pendant toute la période du Covid? J'ai pu m'entraîner où ce que je voulais quand je voulais, etc. Mais sinon, ça va pas chercher très loin. Et c'est surtout ce que je disais, c'est que si on a un travail qui est style RATP ou qui est dans l'État, là on a des avantages, ce que je n'ai pas eu.
Ce qu'on peut peut-être avoir aussi en intégrant une entreprise privée d'une certaine taille, avec ces fameuses CIP, les conventions d'insertion professionnelle, pour les sportifs de niveau, pour les étudiants aussi dans un premier temps, mais non.
Non, j'ai rien eu de tout ça. J'ai rien eu de tout ça, donc je ne saurais te dire.
Les prochaines échéances, à l'heure actuelle, tu prépares des combats
Je vais aller combattre en Thaïlande. Donc ça va être la première des choses. Et dès que j'ai fini de combattre, je rentre et je vais faire du MMA. Et j'évolue actuellement à l'US Metro. C'est une très belle salle de MMA avec plein de combattants très connus. Et ils m'entraînent très très bien. J'aimerais bien combattre assez vite en MMA. Ouais.
Donc tu as un pied à l'US Metro et un pied ici au Striking 15?
Tout à fait. En fait, l'US Metro, ça va être pour m'apprendre, on va dire. Et le Striking, ça va être pour rester sur mes qualités. Comme ça, j'oublie pas ce que je sais faire et j'en apprends des nouvelles.
Pourquoi la Thaïlande ?
Il fait chaud.
Il fait chaud.
Mais là, on est au chaud, là.
Il fait chaud, la bouffe est à 3 euros. Non,
c'est pour le plaisir. Là-bas, on peut combattre assez facilement. C'est le pays de la boxe thaïlandaise. Donc, bon.
Tu pars combien de temps là-bas ?
Je vais partir 4 semaines. Je vais m'entraîner tous les jours, une à deux fois par jour. Je combattrai là-bas et puis après, je reviens, je serai en pleine forme.
Ouais, tu vas te faire ton petit week-end choc. Puis après, quand tu reviens, il va commencer normalement à faire un petit peu plus doux.
J'espère.
Et tu vas pouvoir attaquer cette transition.
Ce qui serait bien, c'est que vous preniez toute la flotte sur la tronche,
ouais,
avec tout le froid possible, pendant que moi, je suis au soleil et après, on échange. Ouais. Ah, ça me va, ça.
Donc en fait, tu pars avec le soleil et tu reviens avec le soleil.
En tant que moi-même fils du soleil,
ouais.
En tant que roux, je me sens proche.
T'entames ta transition vers le MMA. L'objectif, c'est de partir sur des combats à MMA déjà dès cette année, en 2024.
Ça serait magnifique, ouais. C'est vraiment ce que je veux.
Donc, pas de JO pour toi ?
Non. Et puis les JO, malheureusement, j'ai été invité récemment par la Française des Jeux pour des interventions pour les athlètes qui ont fait les JO et qui étaient en reconversion. Waouh, c'était l'apocalypse. Mais ça m'a foutu le cafard. Non, c'était pas possible. Enfin, c'était très bien organisé, tout était bien. Hein, mais le discours d'après JO, c'est l'enfer. Parce que déjà, ça tombe qu'une fois. Il faut performer vraiment très très haut pour être connu. Il faut prendre tout ce qu'on peut le plus rapidement possible parce que sinon après il y a plus rien. Et c'est pas rémunéré, hein, les JO. Hein. Il y a rien pour les boxeurs, enfin pour les athlètes. C'est les JO, c'est très spécial. C'est très très spécial. Faut vite changer. Déjà faut gagner, faut aller tout en haut et faut vite changer de voie parce que sinon c'est une impasse. C'est une impasse et comme je disais, tous les anciens athlètes des JO qui racontaient leur expérience. Très compliqué. Pour moi qui étais encore dans le circuit, j'avais pas envie de partir le plus loin possible.
Alors, tout à l'heure en off, on en parlait. J'ai eu l'occasion de rencontrer les fondateurs de Oben ce matin. Chez Oben, il y a une autre sportive que j'ai pu interviewer qui est Mathilde Petriot, qui elle est en lice pour se sélectionner pour les Jeux Olympiques en tant que gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. Et effectivement, elle disait là, cette année, on arrive à peu près à financer notre carrière, mais à partir du mois d'août, à la fin des JO, eh ben on sait pas, c'est la grosse inconnue. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est en gros, tu fais tes JO, tu t'éclates, et puis après, tu prends la poudre des scampettes et tu mets sur autre chose.
Voilà, c'est ça. Et si tout va bien, elle gagne tout, elle est super connue, elle passe dans TéléZ et ça va aller. Et sinon, ciao.
Donc,
retour à la réalité, et
là, c'est difficile.
Ouais.
Raison pour laquelle toi, t'entames ta transition vers le MMA. Une reconversion qui est prévue après, dans quelques années. Est-ce que tu te projettes déjà un petit peu là-dessus, sans véritablement te projeter, pour reprendre la question que je te posais tout à l'heure sur l'avenir à court terme, mais sur le long terme, 5-10 ans, est-ce que tu prépares déjà une reconversion en même temps que tu prépares ta transition ?
Alors j'y pense, oui, fatalement. J'essaie de voir un peu plus loin que le bout de mon nez, mais c'est assez compliqué de se dire que...
Surtout un nez que j'ai bien cassé. Non, c'est toi qui mets des bourre-pifs, c'est pas toi qui le
prends. Ça va, il a été touché. Là, je suis au max. Là, je respire bien, là, pour moi. Là, c'est le top. Pour en revenir à la reconversion, non, j'y pense. C'est très lointain, mais j'y pense, j'espère. Bien évidemment, je vais pas pouvoir boxer toute ma vie, je vais pas pouvoir coacher toute ma vie, donc je pense, j'ai quelques idées à droite, à gauche. Voilà, sans plus, je me le mets dans un coin de ma tête. Faut pas trop non plus que je me concentre là-dessus parce que sinon je vais me dire bon, pourquoi je le fais pas maintenant et pourquoi je me lève tous les matins, je me fais de la douleur, mais bon.
C'est peut-être le sujet, c'est vrai que je l'élude un petit peu,
ouais.
Mais on parle sur ce podcast de comment est-ce que les sportifs vivent de et par leur passion, mais préparer la reconversion, c'est-à-dire est-ce que, à ton avis, ça pourrait se préparer déjà dès maintenant en s'attachant les services d'un conseiller en gestion de patrimoine de... Parce qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Même 50, 100 euros par mois, bien orienté, savoir où les placer, les faire fructifier. Tu gagnes un combat, youpi, tu gagnes 5000 balles. Si tu peux te permettre de les placer quelque part, et de les placer pour l'avenir. Parce que y a aussi une chose dont on ne parle pas, c'est la vie de sportif de haut niveau. Si tu n'es pas salarié, comment est-ce qu'on met de côté pour la retraite ? Tes points retraite, tes années de travail, etc. Là, tu es en vacances en tant que sportif. Tu t'entraînes tous les jours, tu fais ce que tu veux. Je rigole, bien sûr. Mais comment est-ce que tu capitalises pour ta retraite ?
Je fais la technique de l'autruche.
Mais non, t'es coach.
Ça fonctionne bien.
Voilà.
Franchement, Hermano, là... Non, mais en plus, c'est à moitié vrai. Après, là, On le voit dans le système actuel, la retraite, tout ça, ça nous paraît impossible, loin, inaccessible. Moi qui suis auto-entrepreneur, je l'ai dans le baba quoi qu'il arrive. Donc tout ce que je me dis, c'est que je vais devoir travailler toute ma vie. Je vois bien comment sont nos grands-parents. Ils ont qu'une seule envie, c'est de travailler. Et de toute façon, ils n'ont pas assez de fric pour la retraite. Donc dans tous les cas, ils sont perdants. Et je pense être déjà le plus grand des vainqueurs au niveau de la défaite.
Bon, écoute, il ne faut pas partir perdant.
Non, mais
tu montes pas sur un ring en disant que tu vas perdre.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de ne pas y penser... J'y pense pas.
moi, je trouverais une formulation plus belle. Je dirais que tu crois sur toi et en ton avenir, ouais. Et que tu crois en ta bonne étoile. Quelque chose de bien va se passer. Ça va te permettre d'être retraité rapidement.
Ouais, je fais tout pour. C'est plus ça que je fais. C'est-à-dire que je mise sur le présent en me disant que ça mon futur en bénéficiera. On aura les bénéfices du moins.
On parlait tout à l'heure de ceux qui t'accompagnent. Il y a l'US Métro, il y a le Striking. Est-ce que tu as d'autres partenaires ?
Ouais, tout à fait. Je suis avec Lactic aussi, qui m'aide vachement pour obtenir des sponsors qui sont un peu plus pros. Et c'est vraiment très compliqué à aller toucher, à aller voir des entreprises, surtout pour des sports aussi mal vus et mal connotés que la boxe, parce que c'est assez compliqué d'aller voir des sponsors, des entreprises et de leur dire hey, vous savez que je pète la gueule des gens, ça vous dirait de venir
d'associer votre image à la mienne ?
Exactement. Donc, il m'aide là-dedans, ouais.
J'avais échangé aussi avec Thibaut. Il t'aide justement à redorer un peu le blason,
à
montrer le bon côté de la boxe, parce qu'il n'y a pas que les bourre-pifs que tu prends
c'est
ou que tu donnes. Il y a aussi toute la résilience que tu mets dans ton travail, tout l'acharnement et toute l'obstination, et puis qui te permettent aussi de mettre en avant des valeurs qui peuvent être en accord avec celles des partenaires potentiels que tu peux avoir.
Et qu'ils le sont bien plus que ce qu'on croit. Moi, j'ai énormément d'avocats très très bien placés en coaching. Tout ce qu'on fait sur le ring, ils voient tout de suite la corrélation dans leur taf et ils excellent.
Bon ben voilà, c'est un peu la conclusion. Du coup, si vous voulez exceller aussi bien au niveau
bien
personnel que professionnel,
pétez
faites la boxe.
Pétez la gueule aux gens. Pétez la gueule aux gens. Vous pourrez être meilleur avocat en plaidant votre propre culpabilité. C'est très bien.
Écoute, ça me va. Bon, je te propose qu'on en reste là. Du coup,
très bien, parfait.
Non, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais voulu aborder aujourd'hui?
Ouais, j'aimerais bien aborder. Bah, du coup, ça fait un petit peu écho avec ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit par rapport à la motivation. Je pense que ma génération est un petit peu en manque d'inspiration par rapport à des gens qui pourraient les porter. Je pense qu'on a des très mauvais exemples. On a des mauvais exemples à la télé, dans les journaux, sur Instagram, etc. Je pense que on se focalise sur ce qu'ils ont accompli et pas sur les personnes en soi. Je vais prendre l'exemple de Conor McGregor, qui voilà, au moins sera très connu, surtout dans les sports de combat. Oh là là, il a gagné le million, etc. Il est trop fort, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et il a plein de meufs, c'est trop bien pour lui. Mais je pense que ce qu'il véhicule à partir de maintenant est assez mauvais et autodestructeur parce que il transmet plus de valeur. Alors une fois de plus, les valeurs pour ma génération, c'est quelque chose de très très abstrait. On s'en fout un petit peu. On préfère le fric aux valeurs. Mais c'est là-dedans.
C'est une valeur en soi. Hein.
Oui, tout à fait. c'est la meilleure des valeurs. Non mais voilà. Arrête, Hermano.
On coupera.
Non mais je pense qu'il y a plus personne qui a des bonnes valeurs de à transmettre. Et j'aimerais bien, bon, à mon petit niveau et même je suis pas un exemple, mais j'aimerais bien donner l'envie d'avoir des valeurs. C'est bête ce que je viens de dire, mais juste avoir envie d'en avoir. Pas d'en avoir, hein, mais d'en avoir envie. Et je sais que c'est très dur parce qu'on a énormément de confort, on est vite happé par le quotidien, et je pense que le sport, et plus particulièrement la boxe, qui est pour moi le sport ultime, c'est le sport vers lequel tous les autres sports tendent, parce que je suis désolé, mais quand on fait de la course à pied, on se bat quelque part. Quand on nage, on se bat. Quand on fait une compétition, on se bat. Et la plus belle des batailles, c'est la boxe, puisque c'est celle qui est la plus pure. Et je pense que chacun devrait au moins une fois mettre les gants pour se rendre compte qu'on n'est pas en sucre, qu'on a un meilleur mental que ce qu'on pense, et qu'on a envie d'avoir des valeurs qui seront communes et qui seront belles à porter.
Oh, bah écoute, Ça, c'est une belle conclusion.
J'espère.
Je t'en remercie.
J'espère.
Tu disais que quand on court, on se bagarre un peu. Je te confirme, pendant ma traversée de la France, je suis tombé sur deux bons gros tarés avec qui j'ai fini par boxer. Un près d'Auxerre, un à Toulon. Bon, j'ai pas boxé longtemps, mais j'ai couru longtemps. Donc, au moins, j'ai pu les éviter.
Physiquement, t'as failli venir aux mains ou...
Non, il y en a un avec qui je suis venu aux mains.
Magnifique.
Alors, pour la petite histoire, j'étais sur une petite route de campagne en arrivant sur Auxerre et un mec avec sa camionnette a rien trouvé de mieux à dire que t'es sur ma route, tu dégages. Bah ouais, mais excuse-moi, ta route, on peut la partager. Non, non, non. Et lui est sorti de sa camionnette, il m'a bourré de bourre-pif. Donc lui s'est fait plaisir, tu vois, en voyant.
Ouais.
Moi, je me suis mis en boule, j'ai évité, j'ai encaissé, et puis après, il a fini par partir. Voilà.
Victoire par abandon.
C'est ça.
Quelque part.
Exactement.
Non, mais y a des. Alors, au-delà de cet épisode-là, mais tu vois, se battre contre soi-même en courant, en se disant, allez, je le fais encore une dernière fois, allez, je cours encore ce dernier kilomètre, bon, allez, j'en peux plus, mais je vais pas manger, pas boire, et je vais courir encore. Ben ça, c'est mentalement, c'est très très fort, et c'est tout le monde peut essayer de le faire, et c'est en ça qu'on va tous s'améliorer.
Écoute, merci beaucoup.
C'est moi,
Hermano. J'ai encore deux dernières questions pour toi.
Bien sûr.
La première, si tu pouvais vivre dans un monde un petit peu fantastique, un peu de science-fiction.
On reviendrait dans les années 90. Excuse-moi, pardon.
Ouais,
je t'ai coupé.
Te reprojeter à côté du petit ange qui va découvrir la savate. Lui. Te voit, connaît tout le parcours que tu as eu, donc que lui va avoir. Qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi en te voyant ?
C'est pas assez. C'est pas assez, fais plus.
Ok. Du coup, tu lui répondrais quoi ?
Je lui dirais, ouais, je sais, c'est dur, mais je suis en train de le faire, là. Je lui dirais que patience. Patience. Je vais en faire plus, je dois en faire plus, et ça va venir petit à petit. C'est moins facile que ce qu'on croit.
Ouais, mais c'est plein de motivation encore.
Ah, tout à fait, j'ai pas le choix. Ça ou mourir.
Et puis dernière question, si on veut justement te suivre, t'accompagner, te soutenir, suivre un petit peu tout ce que tu racontes.
J'essaierai d'envoyer mon RIB, tu me dis, sur les réseaux.
Pour contribuer financièrement, déjà, il y a Aubaine.
Tout à fait. Il y a également Lactique, vous pouvez me soutenir là-dessus. Après, les messages d'encouragement me vont très bien sur Instagram, Facebook, TikTok, toutes les plateformes existantes, je suis dessus, et, excepté OnlyFans.
Super.
Enfin, on verra.
Mais c'est autre chose. De toute façon, on mettra toutes ces infos-là dans les notes de l'épisode.
Parfait.
Ange, merci beaucoup
de
m'avoir accueilli dans ta salle, enfin en tout cas dans la salle dans laquelle tu t'entraînes. J'en profite, on est là physiquement, je prendrai la caméra, je ferai quelques petites prises de vue, je mettrai ça sur les réseaux.
Grave.
Merci. Et puis, merci encore. Bonne continuation.
Je te remercie.
Bon voyage vers la Thaïlande.
Yes. Merci.
Et à bientôt.
Yes, à bientôt.
Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Ange Künzli que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Ange et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs !